Pas d'affolement. Nous voilà. Pas d'affolement.
Nous voilà.
Pas d'affolement.
Nous voilà.
Bonjour et bienvenue à vous auditeurs pour cette 47e émission de Pas d'affolement nous voilà sur REM, Radio Entre-deux-Mers 98.4.
Nous sommes en présence de Philippe, Jean-Louis, Brigitte, Valérie, Michaela, Nathalie, Adidine, Francis, à la technique, Béatrice, Marie, Christelle et moi-même aussi.
Présentons notre invitée, Madame Hélène Darrier, dentiste qui travaille à l'hôpital de Cadillac. Combien d'années d'études après le bac faut-il pour devenir dentiste ?
D'abord, je tiens à m'excuser sur la qualité de ma voix, mais j'ai un beau rhume et donc c'est pas ma voix habituelle, ça. Merci. Alors, combien d'années d'études ? Alors, quand moi j'étais étudiante, c'était 5 ans. Maintenant, on en est à 6. Une année de plus qui est faite pour que les dentistes aillent beaucoup plus en stage et quand ils sortent, soient beaucoup plus performants et soient capables de mieux soigner les patients. Voilà. Moi, j'ai donc fait 5 ans, mais après mes 5 ans d'études, bien sûr, comme j'adorais faire des études, ben, je suis allée faire quelques études supplémentaires. J'ai fait ce que l'on appelle des CES. Et je me suis un petit peu spécialisée dans l'étude des matériaux dentaires. Et j'avais même commencé un CES de médecine légale pour être expert auprès des tribunaux. Je ne l'ai pas continué et parce que ça prenait trop de temps et j'avais plus le temps. Mais voilà, j'étais un petit peu passionnée par d'autres choses que la dentisterie toute simple.
À quel âge avez-vous commencé à pratiquer ?
Alors, un petit peu tardivement, parce que... Ça va rassurer beaucoup de parents qui vont entendre ce que je raconte. Je suis ce qu'on appelle une dyslexique dysorthographique. C'est-à-dire que j'ai tout un tas de problèmes pour bien comprendre ce qu'on me raconte, bien lire ce que je lis. Et j'ai fait de la rééducation pendant très longtemps. Donc j'ai un petit peu fait un cursus scolaire un petit peu plus long. Donc j'ai pas été une jeune dentiste, j'ai été non plus une très vieille dentiste, mais j'ai commencé à exercer, j'avais 26 ans.
Et alors c'est où que vous exercez ?
Alors, à l'heure actuelle, je n'exerce plus que à l'hôpital de Cadillac, mais pendant 30 ans, j'ai exercé comme dentiste libérale dans un tout petit village que j'adorais et avec une patientèle que j'aimais énormément. Et quand la proposition m'a été faite de venir à Cadillac, je faisais les deux au début. Et puis je me suis rendu compte que à faire trop de choses, on faisait rien parfaitement bien. Donc je me suis dit, faut que tu choisisses. Et j'ai choisi le fait d'être dentiste à l'hôpital de Cadillac.
À quelle période de l'année vous faites le plus de rendez-vous ?
Alors, je vous dirai pas qu'il y a des périodes. Il y a des moments où on a peut-être un petit peu plus de monde, mais on a toujours du monde. À l'heure actuelle, les gens se soignent. Les gens ont enfin compris qu'il ne faut pas aller chez le dentiste uniquement quand on avait mal. Il faut aller chez le dentiste régulièrement. Ce qui fait que l'on fait des soins de meilleure qualité, sans souffrance, et on en fait tout le long de l'année.
En prévention.
Oui, voilà, la prévention. D'ailleurs, c'est un de mes grands dadas, parce que j'estime que si on fait de la bonne prévention, on va diminuer les soins très importants, et après, le problème de prothèses, d'adaptation d'appareils, de choses comme ça.
Avez-vous déjà pensé à travailler dans l'unité
humanitaire?
Alors, je n'ai jamais pensé à travailler dans l'humanitaire, mais très vite dans mon exercice en profession libérale, j'ai eu une sensibilité pour soigner ce qu'on appelle les patients différents.
Oui. Voilà. En psychiatrie en particulier.
En psychiatrie en particulier, mais j'ai tout de suite eu une approche un peu maternelle, je dirais, des patients un petit peu différents. J'estimais que bon, ces patients-là avaient droit aux soins de la même façon que les autres, et il fallait prendre peut-être un petit peu plus de temps, et ça m'a tout de suite beaucoup plus attirée, et j'ai fait ça très tôt.
Bien. Eh bien, merci Madame Darrier de votre gentillesse et de votre être venue déjà, c'est beaucoup. Et alors, comme on sort des vacances, Ossine a été en vacances à Lyon. Et Ossine va nous compter ses vacances.
Mes vacances en septembre 2019, j'ai passé des vacances en famille. La première semaine, je suis resté à Lyon chez ma nièce. Nous avons visité un parc de la Tête d'Or. J'ai vu des chiens, des flamants roses, des plumes longues, des zèbres, rhinocéros et des girafes. J'ai envoyé des cartes postales à mes amis. J'ai cuisiné chez Tchouka. Et j'ai mangé un bon couscous. Notre nièce nous a invités à boire un café chez elle. Ensuite, je suis allé chez ma grande sœur à Grenoble. Nous sommes allés au marché. Nous sommes promenés dans le parc. Nous avons fêté les 10 ans de la fille de ma nièce. Mes neveux, mes nièces, ils sont venus me rendre visite, passer de bons moments et je me suis bien reposé. L'hôpital des jours, la radio et mes amis, ils me manquent beaucoup. Je suis très content de vous retrouver.
Alors Sylviane, elle va nous parler maintenant de l'exposition au musée de Marmande, au fil de la mémoire. Qu'on l'a écouté, c'est beau.
Marmande, nous sommes allés à Marmande. Et ensuite, nous sommes allés manger au restaurant. Le restaurant s'appelle L'eau à la boule. Ensuite, nous sommes allés visiter un musée qui s'appelle le fil de la mémoire. Ce musée m'a rappelé beaucoup de souvenirs de mon enfance. La dame nous a expliqué comment vivaient les gens dans le temps. Elle nous a montré l'ancien berceau de bébé, comment laver le linge à la main, à la lessiveuse. Ceci m'a rappelé que quand j'étais enfant, nous nous lavions dedans. On a vu le lit de la grand-mère. Elle nous a montré comment on pêchait le poisson. Elle nous a montré des pots de lait pour aller chercher le lait à la ferme. On a vu l'appareil à chiquer. On a vu les sabots d'ancien temps. Les sabots m'ont fait penser à la Bretagne. Les fameux sabots que ma grand-mère appelait les boutoquettes. Ils roulaient la laine autour des bras. Elle nous a montré les anciennes coiffes que les gens mettaient dans le temps. J'ai pris des photos. J'ai beaucoup aimé cette visite. Je conseille aux gens d'aller le voir.
Eh bien, merci Sylviane pour ce beau texte. Et alors un autre beau texte, Brigitte, qui a été à l'école comme nous, va nous conter ses souvenirs d'école, qu'elle nous a fait un texte dessus, sur ses souvenirs d'école. Nous écoutons Brigitte, en direct.
En direct. Bien, mes souvenirs d'école, d'abord je suis allée à l'école à la maternelle à Lorme dans la Nièvre. À 5 ans, là, à la petite section, avec la maîtresse, Madame Rousseau, elle s'occupait de moi. On s'amusait avec des cubes et d'autres jouets. Et dans la cour, je faisais de la trottinette et du cerceau. Puis, on faisait des danses folkloriques et des fêtes en fin d'année. Après, plus tard, je suis allée au CP, à l'école de filles. Je me suis fait des copines. On s'entendait bien. La première année de CP, une maîtresse qui m'avait mise au fond de la classe et je regardais de grands échantillons de papier de tapisserie que je trouvais très beaux. Puis, la dernière année, notre maîtresse qui m'a appris à lire. Plusieurs années après, je suis allée à l'école de Menade dans Lyon. J'ai connu Babylotte, Annie, Monique, Michel Auclair, Hélène, Thérèse et son frère Marcel, Roger et des enfants venant aussi, qui viennent de l'école à Menade. Et à Menade, on faisait des sorties vertes. Ils venaient après ici, au village voisin. Je suis restée de 9 ans à 14 ans. À cette école avec Babylotte, on était souvent au coin, l'un dans la cour et moi vers la place. On s'amusait pendant que les autres faisaient leurs devoirs dans la classe. Puis plus tard, je suis allée à l'école ménagère au château de Sarcan, dans le Pas-de-Calais, avec les professeurs. On faisait les tâches ménagères et ce que j'en faisais nous-mêmes, c'était les repas avec les professeurs. Cuisine, ménage, couture, tricot. Et on a fait des voyages scolaires à Lille, à Amiens. J'ai passé le CEP au collège de Frévent, dans le Pas-de-Calais. J'ai été reçue. J'étais très contente. Nous avons fait des danses rythmiques à Arras pendant 2 jours. Ça a été de beaux moments. Voilà les souvenirs d'école de 1952 à 1963.
Et Brigitte, alors on va parler d'autre chose maintenant.
Maintenant, je vous présente Christophe qui va vous parler de la Bérésina.
Le 19 octobre 1812, Napoléon ordonne de quitter Moscou qui avait été brûlé sur les ordres des Russes pour priver Napoléon et son armée de ravitaillement et de logement pour passer l'hiver russe très rigoureux. C'est le début de la retraite de Russie. Les souffrances commencent alors pour les grenières de la Grande Armée, terrassées par la neige, le vent glacial et le manque de vivres. Des cas de cannibalisme ont même été rapportés sur des cadavres dévorés par leurs camarades. Et ne parlons pas de la nourriture pour les chevaux qui tractaient les canons, munitions et ravitaillements. De plus, la Grande Armée en retraite était harcelée et ses soldats à la traîne exécutés par l'armée russe, revancharde après les défaites successives et l'incendie de leur capitale, Moscou. Voilà la situation de ce qui fut jadis la Grande Armée, toujours victorieuse jusqu'à la campagne de Russie qui devait unifier définitivement l'Europe, but de Napoléon dans le cadre de la République et de la Révolution française. À la fin du mois de novembre 1812, la Grande Armée arrive en vue de la rivière Bérésina. La bataille de la Bérésina, ou bataille de Borisov, eut lieu du 26 au 29 novembre 1812, aux alentours de la ville de Borisov, sur la rivière Bérésina, dans l'actuelle Biélorussie, à l'ouest de la Russie. La Grande Armée dut affronter 3 armées russes, celles de Kutuzov, de Wittgenstein et de Tchitchagov. En France comme en Russie, la campagne de Russie reste présente dans les esprits, même inconsciemment. Un mot le résume. C'est une Bérésina fréquemment utilisée pour évoquer une déroute sur le plan sportif, électoral ou autre catastrophe. Alors que la Bérésina est considérée comme une victoire de Napoléon et surtout de la Grande Armée. Effectif de chaque côté avant la bataille, 89 000 Grandes Armées, dont seulement 49 000 en état de combat. Du côté russe, 60 000 hommes en état de combat. Napoléon manquait de tout. Cavalerie, artillerie, munitions et ravitaillement, et était en plus en infériorité numérique, et acculé à une rivière, encerclé par les 3 armées russes. La situation est alors désespérée pour la Grande Armée. Le 23 novembre, les Russes attendent les Français à Borisov. La température est alors de moins 37,5 degrés Celsius. Mais la rivière Bérézina n'est pas encore gelée. Ce même 23 novembre, Napoléon décide d'y organiser une manœuvre de diversion pour permettre le franchissement de la Bérézina, 15 km en amont, face au village de Tudurka, où le général Corbineau a identifié un passage possible. À cet endroit, la largeur de la rivière n'est que de 20 mètres et sa profondeur est de l'ordre de 2 mètres. Le succès de l'opération passe par la très rapide construction de deux ponts de 50 mètres de long et de 5 de large, dans lesquels réside le salut de la Grande Armée. Et tout ça dans un temps record. Des 400 hommes envoyés, seuls 8 survivront à leur séjour dans l'eau glacée. Jean-Baptiste Eblé ne sera pas des leurs. Il mourra le 31 décembre, s'étant jeté à l'eau en premier pour montrer l'exemple. Pendant 4 jours, les Français doivent faire face aux assauts répétés des Russes. Face à Wingelsen et Tchigalov, Victor et ses 1000 hommes défendent mètre par mètre le village de Tudurka pour couvrir le passage de l'armée. Né fidèle à sa réputation de brave des braves, réalise des prodiges de courage et ne traverse la rivière qu'une fois les ponts coupés. La bataille de la Bérézina doit plutôt être considérée comme une véritable coup d'éclat de la Grande Armée qui, dans un ultime effort, parvient à échapper à l'étreinte de Kourouzov. De la même manière, les 8000 soldats restés de l'autre côté n'ont pas été abandonnés, comme il est dit couramment. Il s'agit uniquement des nombreux retardataires, n'ayant pas écouté les exhortations des soldats de l'autre rive qui leur disaient de les rejoindre avant l'arrivée des Russes. À partir de la Bérézina, le chaos est alors à son paroxysme et la Grande Armée n'est plus qu'une horde complètement désorganisée. Une semaine après la bataille, la campagne de Russie touche à sa fin et Napoléon quitte l'armée à Turgoni pour rentrer à la capitale où il arrivera le 19 décembre.
Nous vous présentons maintenant Amir avec sa chanson « Les états d'amour ».
Final, t'as semé sans sonner des points d'interrogation. Je passe mon temps à les escalader, toutes ces montagnes de questions. Toi, ma beauté, mon addiction, je rejoue notre partition. Je coupe les refrains. Oh, tu dis que je suis coupable, je mets mes fausses notes sur la table. Si tu reviens, oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir loin de la peine. Si ton cœur détale, rupture brutale, moi l'animal je retiens ma respiration. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'amour. Dans mes états, tous mes états d'amour. Dans mes états d'amour. Par essence, je suis un peu pyromane. Je me brûle de tant de questions. Je te promets que si tu retrouves la flamme, j'éteins tes hésitations. Je me fais des films en noir et blanc. J'aurai l'Oscar de l'amant, de l'âme en peine. Je préfère largement l'histoire où tu m'embrasses au hasard. Je rejoue la scène. Oublie au moins les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne. Si ton cœur détale, rupture brutale, moi l'animal je retiens ma respiration. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'âme.
Oh,
Je compte à rebours, je gâte ton retour dans tous mes états d'amour.
Et oui, nous sommes toujours à Pas d'affamant, nous voilà, dans l'émission REM, Radio Entre-Temer, avec une invitée que nous allons continuer à lui poser des questions, Madame Hélène Darrier, dentiste qui travaille à l'hôpital de Cadillac. Alors, ma question, c'est une question toute simple et que tout le monde se pose. Quels sont vos conseils pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire?
Alors, mon premier conseil, c'est de se brosser les dents 2 fois minimum par jour.
Bon, c'est faisable.
Oui, c'est pas compliqué. Comme je dis bien, vous vous habillez le matin, vous vous déshabillez bien le soir. Donc la brosse à dents, il suffit de la mettre à côté des pyjamas et vous oubliez pas de vous brosser les dents.
Voilà. Combien de minutes?
Alors, à l'heure actuelle, on considère qu'avec 2 minutes...
Oui, j'ai fait.
2 minutes, c'est très long. Oui. Nous venons d'entendre une musique, hein. On vient d'entendre une chanson. Vous avez vu combien de temps elle dure?
C'est long.
C'est long, hein?
Oui, c'est
2 minutes 30.
Mais je me chronomètre quand je...
3 minutes. Ah, excusez-moi. 3 minutes. Alors, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire mettre une chanson, commencer au début et brosser pendant 3 minutes.
Mais moi, je regarde la télé, je regarde le chronomètre de la télé et je vois 2 minutes et j'arrête.
D'accord. Alors, quand je dis brossage 2 fois par jour, c'est après le petit déjeuner du matin et le soir... avant de se coucher. C'est-à-dire que le petit déjeuner du matin, c'est l'appareil logique parce qu'on a mangé hyper sucré, ben oui. La confiture ou les cornflakes ou les trucs comme ça qui sont collants et sucrés. Et juste avant de s'endormir, pourquoi? Parce que théoriquement, la nuit, on ne parle pas. Donc, on n'a pas les lèvres qui passent sur les dents. On n'a pas la langue qui passe un peu partout. Et on salive beaucoup moins. Parce qu'en plus de ça, généralement, la nuit... on a plus ou moins la bouche ouverte. On respire. Et certaines fois, on ronfle. Voilà. Ce qui fait qu'il y a moins de salive. Donc, il y a moins de protection pour les dents. Donc, surtout, le brossage du soir, c'est presque celui qui est le plus important.
Merci, Mme Dory.
Y a-t-il des aliments protecteurs des dents? Et au contraire, quels sont les nocifs?
Alors, à une époque, on a eu une grande période. Il faut mettre du fluor partout. On en mettait dans le sel, on en mettait dans le dentifrice. On aurait presque fait manger du fluor avec du fluor. Maintenant, c'est terminé. On s'est rendu compte que dans nos régions, il y avait suffisamment de fluor naturellement. Donc, il n'y a pas d'aliments qui vont faire que ça va être un miracle. Vous n'aurez, y aurait pas de caries. Par contre, on connaît les aliments qui vont donner des caries. Les sucreries, les sodas. Tous les sodas, même ceux qui vous sont dit allégés ou sans sucre, c'est l'acidité qui va faire que ça va être mauvais. Donc attention. Et ce qui est mauvais, ce sont les aliments collants aussi. Parce que ça colle sur la dent et ça permet aux bactéries de bien se développer. Donc attention, il n'y a pas de bons aliments. Et dans les mauvais, ben, il n'y a qu'une solution, c'est bien brosser après.
La bouche est-elle un foyer infectieux, notamment entre une mère et son enfant?
Bonne question. À une époque, on pensait que la carie, c'était quelque chose comme ça. Or, on s'est rendu compte que la carie peut être contagieuse. J'explique. Une maman qui donne à manger à son enfant. Souvent, elle met la petite cuillère dans la soupe ou dans l'aliment de son enfant. Et pour pas le brûler, elle la goûte. Mais elle goûte avec la petite cuillère. Et après, elle la met dans la bouche de son enfant. Si elle a des caries, elle peut donner des bactéries qui vont donner des caries à l'enfant. Donc ça peut être ce qu'on appelle une contamination de la mère à l'enfant. C'est une des rares choses qui peut arriver. Après, je raconte toujours, j'ai la fille d'une de mes amies qui un jour me dit « À partir de quel moment on doit brosser les dents d'un enfant ?» Ben, je lui dis « À partir du moment où il a des dents ?» Ben elle me dit « Oui, mais il s'en sert pas. » Ah, je lui dis « Ah bon, pourquoi ?»« Parce que tu laves pas les pieds de ton fils alors qu'il ne marche pas. » Ben si, elle me dit « Je lave bien les pieds. » Et ben je lui dis « Ben oui, ben donc tu laves bien les dents. » Donc, c'est ça qu'il faut apprendre aux jeunes mamans. C'est qu'à partir du moment où il y a des dents dans la bouche du bébé, il faut commencer à brosser les dents. Alors, on va pas mettre une grosse brosse à dents avec du dentifrice, mais on va lui apprendre à ce que cette dent soit nettoyée et qu'il y ait quelque chose dans sa bouche pour nettoyer les dents. Voilà.
Alors, on a parlé d'alimentation et le tabac. Alors, c'est dangereux pour les dents à la bouche. C'est dangereux pour beaucoup de choses, pour tout.
Alors,
et le dent.
Oui, bien sûr que c'est dangereux. Alors, pourquoi c'est dangereux ? Parce que ça dépose sur les dents de la nicotine et des goudrons. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la colle. Et cette colle-là, elle va faire que les bactéries vont se fixer encore beaucoup plus. Ce qu'il faut faire dans une bouche, il faut que ça passe, que ça brasse. Donc, s'il y a un facteur qui permet que ça colle, eh bien, les bactéries, elles vont se dire, ça y est, c'est le Club Med. Il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Il fait chaud, je m'installe et j'invite les copines. Et on va faire un festival et on va grignoter les dents. Donc, le tabac, c'est mauvais. C'est mauvais aussi parce que ça élève la température dans la bouche. À chaque fois que vous tirez sur votre cigarette, vous faites ça. Vous augmentez la température de votre bouche. Donc, votre gencive, qu'est-ce qu'elle se fait ? Eh ben, elle fait ce que, qui est naturel. Au bout d'un moment, elle se dit, bon, ben, j'en ai marre de me faire brûler. Je me retire. Je me retire. Je me retire. Puis un jour, ben, il y en a presque plus de gencives. Et vous arrivez chez le dentiste en disant, vous avez vu mes dents, comment elles sont ? Oh là là ! Et puis, elles bougent toutes. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est le tabac qui a fait ça. Donc, très mauvais le tabac.
Une raison de plus de s'arrêter de fumer.
Oui. Et surtout, la meilleure des choses à faire.
Ne pas commencer, oui.
Voilà, ne pas commencer.
Oui, c'est évident.
Je voudrais savoir, connaissez-vous le siwak africain et qu'en pensez-vous ? Cela est-il mieux pour qu'une brosse à dents ?
Alors, je ne connais pas vraiment le...
C'est un bâtonnet.
Voilà, je sais que c'est un bâtonnet qu'on passe entre les dents. Comme je dis, quand vous avez besoin de nettoyer une grande surface dans la maison, hein, vous avez besoin de nettoyer le sol de la cuisine, est-ce que vous allez aller chercher votre brosse à dents ? Non, vous allez chercher une serpillière avec un balai lave-pont ou un balai espagnol pour enlever tout ce qu'il y a sur toutes les surfaces. Et ben, c'est exactement la même chose. La brosse à dents, il faut qu'elle passe sur toutes les surfaces. Ça peut être un complément au brossage. C'est-à-dire, on a bien brossé et après, on passe entre les dents ce petit bâtonnet. Mais on a les mêmes chez nous, hein. On a des bâtonnets interdentaires ou on a même des petites brossettes interdentaires. C'est exactement comme des écouvillons pour nettoyer les bouteilles ou les biberons, vous savez, ces petits trucs ronds qu'on passe, qui ont une petite brosse. Eh bien, cela existe aussi pour passer entre les dents et on peut passer ça aussi entre les dents. Voilà.
Que pensez-vous des brosses à dents électriques ?
Alors, j'étais une brosseuse manuelle et je suis devenue une brosseuse électrique. C'est vrai que c'est très facile de brosser électrique. Le mouvement, il est parfait. Ça se fait exactement comme ça doit être frais. Parce que vous savez, quand on brosse, il ne faut pas qu'on brosse horizontalement, il faut brosser verticalement. La brosse à dents électrique, elle le fait. Soit elle tourne, soit elle oscille. Seulement, c'est tellement facile qu'il faut faire attention au brossage électrique. Il faut bien le faire les 2 minutes ou 3 minutes qu'il faut. C'est tellement facile que certaines fois, on oublie, on a l'impression qu'on est passé partout, on est passé trop vite.
Alors j'ai une dernière question qui est intéressante, qui est, disons, alors que nos ancêtres, comment ils faisaient pour se brosser les dents ? Parce qu'avant, il n'y avait pas de dentiste, il n'y avait pas de dentifrice.
Eh bien, voilà.
Je parle au 19e siècle. Hein. Voilà.
Alors je vais vous dire une chose. On a découvert que les Égyptiens, hein, je remonte.
C'est très loin avant, oui.
Que les Égyptiens savaient déjà faire des soins dentaires.
Ah oui, alors.
Voilà. Ils faisaient ça avec des petites curettes. Ils enlevaient ce qu'on appelle la dentine infectée, nous, c'est-à-dire la carie, et après ils mettaient de l'or dans la dent. Donc, les problèmes dentaires, ça existe depuis très longtemps. Et on a su se nettoyer les dents depuis très, très longtemps.
Oui.
Voilà.
Jean-Louis qui va.
Maintenant, je vais vous présenter une chanson de Brel Orly, chantée par Valérie.
Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent. Il doit lui dire je t'aime. Elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montent hors du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. Et la vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste en ligne de dimanche. Avec ou sans béco. Et maintenant il pleure, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il.
Tout encastré qu'ils sont,
ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre.
Et puis infiniment,
comme deux corps qui prient,
infiniment
lentement, ces deux corps se séparent. Et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu. Et puis ils se déchirent, se tiennent par les yeux. Et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu. Ils bavent quelques mots, agitent une vague main. Et brusquement, il fuit sans se retourner. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et l'on de Dieu se triste hors lui le dimanche. Avec ou sans béco. Et puis disparaît, bouffé par l'escalier. Et elle reste là.
Cœur
en croix, bouche ouverte, sans un cri, sans un mot. Elle connaît sa mort. Elle vient de le croiser. Voilà qu'elle se retourne. Elle se retourne encore. Ses bras vont jusqu'à terre. Ça y est, elle a mis là.
La porte est refermée.
La voilà sans lumière.
Elle tourne sur elle-même
et déjà elle sait qu'elle retournera toujours.
Elle a perdu des âmes,
mais là elle perd l'amour.
L'amour lui a dit,
voilà l'inutile. Elle revivra ses projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile,
avant peut-être à vendre.
Je suis là, je la suis, je n'ose rien.
Je n'ose rien pour
elle. Que la foule grignote, comme un quelconque fruit.
Bonjour, et maintenant nous revenons avec un texte de Guillien, Se nourrir à l'hôpital.
Se nourrir à l'hôpital. Je voudrais interpeller les auditeurs sur le pourquoi avons-nous cette sensation de faim au milieu hospitalier. Pourquoi l'obsession de se nourrir est présente au premier niveau dans les hôpitaux? Est-ce l'ennui, le fait d'être là, ne quasiment rien faire de nos journées? La faim est présente dans tous les esprits en milieu hospitalier. C'est en arrivant à l'hôpital que l'on se pose la question. Pourquoi nous alimenter est-il si important? Ici, dès le réveil, tous les regards sont fixés sur le menu, qui est affiché sur le tableau d'information. C'est ainsi à chaque repas, hormis pour le goûter qui n'est pas obligatoire. La curiosité, je dirais la faim, fait que l'on se renseigne à plusieurs reprises sur ce que l'on va manger. Est-ce l'instinct de survie qui se manifeste? Parfois même, nous avons affaire à des grèves de la faim, de la part des patients et parfois de la part des soignants. Ça ne dure jamais longtemps, car manger est vital et par la force des choses, c'est impossible de se priver de nourriture trop longtemps. En hôpital psychiatrique, la prise de poids est courante chez les patients, ayant pour traitement des anxiolytiques, des antidépresseurs et autres neuroleptiques. La plupart font de l'embonpoint. Pour assurer leur service dans de bonnes conditions, nous croisons régulièrement des infirmiers qui font des pauses pour se nourrir. En conclusion, nulle personne n'est un surhumain.
Voilà un texte de Guilin sur l'alimentation à l'hôpital. Eh ben, un autre qui a fait un texte, c'est Jean-Louis, qui, comme tous les mois, nous parle d'un motard. Aujourd'hui, c'est Stéphane Peter Ansel.
Et oui, je vais vous parler de Peter Ansel. Stéphane Peter Ansel, exactement. Il est né le 06 août 1965. C'est son père qui lui fait connaître la moto, car il est pilote de motocross. Il lui offre sa première moto à 8 ans. Dans sa jeunesse, il est aussi passionné par le skateboard, où il devient champion de France. Il participe aux championnats d'Europe, mais à l'âge de 15 ans, il décide d'arrêter le skate pour se consacrer uniquement à la moto. Les entraînements sont intensifs et fait les premières courses sous l'identité de son père, car il n'est pas majeur. Mais le poteau rose est découvert malgré ses victoires. À 18 ans, il passe son permis et devient champion de France. Il est recruté par la CIMA de Marcel Serrault, importateur Userna. Il devient professionnel. Il est aussi plusieurs fois champion de France. Yamaha le recrute et il gagne le championnat du monde, les ISDE, et part courir le Dakar. Pour son premier engagement au Dakar, il finit 18e. L'édition suivante, il finit au pied du podium, mais dans une autre, il se perd et abandonne. En parallèle, il participe aux autres rallyes africains qu'il gagne. En 1991, il remporte son premier Paris-Dakar. Et en 1999, il arrête la moto et passe à l'automobile. À ce jour, il continue de participer aux courses de voitures à l'âge de 54 ans.
Merci Jean-Louis de ce beau texte sur un grand champion. Eh bien, un autre qui a fait quelque chose, c'est sur la lecture d'un article de Sud-Ouest, Gérard, qui va nous parler des animaux abandonnés. Allez Gérard.
Je vais vous lire un article paru le mercredi 5 juin 2019 dans Sud-Ouest Langon. Une journée pour les animaux abandonnés. Les petits chats et les chiens abandonnés ont emporté les cœurs et les suffrages des jeunes citoyens de Langon, lundi 2 juin. Les 225 élèves des écoles de Saint-Exupéry et Sainte-Marie ont participé à la deuxième édition du prix de la citoyenneté jeunesse organisé par la ville. Chacune des quatre classes de CE2 au CM2 devait proposer un projet citoyen soumis au vote des enfants. C'est le projet de la classe de CO2 CM1 de Saint-Exupéry qui a emporté avec 107 voix, 47% 74, grâce à son idée d'organiser une journée d'adoption pour les animaux abandonnés. Comme l'an dernier avec le projet de journée sport en famille, la ville a promis de débloquer 1 000 euros de budget pour mettre sur pied cette journée. Les trois autres projets proposés d'installer de nouveaux jeux au parc des vergers, un toboggan à la piscine extérieure ou encore une journée de danse et de tag sur les quais. Mais ce sont donc les animaux abandonnés qui ont le plus séduit les jeunes électeurs dans leur profession de foi. Les élèves ont expliqué que cette journée a été imaginée pour l'adopter des animaux. Pour les enfants, ça peut être un rêve d'avoir des animaux, puisqu'il y a moins d'animaux dans les rues abandonnées. Les animaux, c'est mal argumenté, dit-il. Cette journée dont la date n'est pas encore fixée sera organisée dans une salle municipale. Les 1 000 euros permettront d'acheter de la nourriture et du jouet pour animaux. La mairie imagine plutôt une journée de sensibilisation à l'adoption des animaux abandonnés. Les enfants, eux, espèrent une journée où il sera possible d'adopter des animaux. Les arbitrages n'ont pas été rendu. C'est aussi ça la citoyenneté. Les chats abandonnés ont emporté le suffrage des enfants. Ce reportage a été fait par Jérôme Jamais, correspondant à Sud-Ouest Langon.
Et maintenant, nous allons faire une pause musicale avec le groupe Classe Américaine et qui nous chante 10 rues de la Madeleine. C'est Christophe qui demande cela.
Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, il ne faut pas rester debout. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Oh, la classe.
Sur les pixels, le cul en plomb, les grandes télés dans les tunnels. Y'a pas à dire, j'ai la classe américaine, le cerveau grignoté à la sauce barbicane. J'suis un morphale de l'image cathodique. Ma culture s'arrête à celle qu'on me dit. Tu vois, y'a pas à dire, j'ai la classe américaine. Je jure une guerre dans le frigo pour le reste. Y'a pas à brûle les doigts sur ma console Nintendo. La grosse bagnole les donne du sang et du porno. Cette fois c'est bon, j'ai gagné ma journée hier. Au même niveau je m'avais fait buter. Tiens salope, crache en l'air et pense en ta gueule. J'arrose tout le monde et j'ai plus qu'avec mon fauteuil. Voici monsieur Damel Desesperado. Faisait la place, il est fou, il est fou. Je braquais sur les pixels, le cul en plomb, l'écran télé dans les tunnels. Dépossédé de conscience politique depuis 81, mais c'est anecdotique. Les coups de gueule dans la rue me font bien marrer. Je vois les fenêtres et je les regarde parader. Dans mon peignoir, j'ai la classe américaine. Toujours une bière dans le frigo pour le reste, j'ai un bâton.
Si j'ai bien envie de le dire, monde de merde.
Eh oui, vous êtes toujours sur Radio Entre deux Mers, pas d'affolement, nous voilà, notre émission sur 98.4. Nous sommes toujours en compagnie de Madame Darier, dentiste à l'hôpital de Cadillac, qui a bien voulu faire l'honneur de répondre à quelques questions. Maintenant, nous allons quand même écouter avant tout une soupe au potiron et châtaigne de Nathalie.
Soupe au potiron et châtaigne. Recette pour 6 personnes. Cuisson un peu plus d'une demi-heure. Ingrédients: 1 kg de potiron, 2 carottes, 1 oignon, 100 g de châtaigne, 1 cuillère à soupe de crème fraîche, poivre, sel, oriandre. Mais d'abord, mettre tous les ingrédients épluchés et couper en petits morceaux, sauf les châtaignes, dans la cocotte. Remplir d'eau la cocotte pour que tous les ingrédients soient immergés. Couvrez la cocotte et faire cuire pendant 7 minutes. Faire cuire les châtaignes à l'eau environ 10 minutes. Les égoutter et les perler. Ajoutez les au reste de la préparation. Faire mijoter le tout pendant environ 25 minutes. Mixez le tout. Pour une pointe de douceur, rajoutez une cuillère de crème fraîche. Bon appétit.
Alors ça me donne l'appétit. Mais avant de manger, on va écouter un texte, comme tous les mois, de Christine. Aujourd'hui, c'est Fabrice.
Notre rencontre en 2006 a été un conte de fées, Fabrice. Tout d'abord, on a vécu dans le même hôpital ensemble. Et on a eu l'accord du médecin pour vivre chez tes parents. Et ensuite, magique, tu les remercieras de la part de l'Arcaouette. Sachez, papy et mamie, que je vous dois beaucoup. Écoute, Fabrice, pour moi, ça a été le coup de foudre. Même si on a 25 ans d'écart, tu es l'unicorne de ma vie. On s'est tous les deux trahis. Si je pouvais retourner en arrière, je n'aurais pas été infidèle. J'étais folle de jalousie quand tout ça est arrivé. On a beaucoup souffert l'un et l'autre. Si j'avais une baguette magique, je repartirais 3 ans en arrière pour un nouveau départ. Je te mènerais la vie beaucoup plus simple que ce que j'ai fait. Mais malheureusement, c'est pas possible. Je te promets à l'avenir que je prendrai plus soin de toi en tant qu'ami. Avec ta nouvelle chérie, ne fais pas les mêmes erreurs que tu as faites avec moi. Même si tu en as pas fait beaucoup, tu en as quand même fait, monsieur. Je te souhaite du bonheur, ancien amour de ma vie et tout plein de bonnes choses et de réussite. Je t'aime quand même, chérie, même si tu ne veux plus de moi, je le comprends. Mais ça n'empêchera pas l'amour que j'ai pour toi.
Merci Christelle. Maintenant, nous retrouvons Oussine pour le top 14.
Mais voilà, je vous donne un résultat de 14 qui s'est donné ce week-end à l'Estade. Agen Bastard français, 27 à 14. Brive, Bagbeg, 30 à 9. Montpellier, bat Toulouse 33 à 22. La Rochelle bat Racing 12 à 6. Pau a battu Castres 37 à 24. Clermont a battu Lyon 24 à 15. Au classement, premier Lyon, deuxième Bordeaux, quatrième Bayonne, quatrième Toulon, 5e, La Rochelle, 6e, Montpellier, 7e, Pau, 8e, Brive, 9e, Agen, 10e, Clermont, 11e, Toulouse, 12e, Castres, 13e, Racing, 92, 14e, Stade français. Voilà, je vais donner le résultat de la Coupe du Monde de football. Oui. Les Français ils ont bien commencé le championnat, mais ça a mal terminé en quart de finale. La France a perdu contre le Pays de Galles 20 à 19.
Merci aussi.
Merci aussi. Nous avons resté dans le sport. Et moi, j'ai conducté, alors c'est le dernier acte de cette. Épisode des Jeux Olympiques de 2016 qui ont lieu à Rio de Janeiro. C'est les premiers à se dérouler en Amérique du Sud et les troisièmes dans l'hémisphère sud après ceux de Sydney et Melbourne. De nouveaux sports sont au programme comme le rugby à 7 et le golf. Comme en 2008 et 2012, les vedettes sont Michael Phelps dans la piscine et Usain Bolt sur le stade. Côté français, c'est Teddy Riner qui comble les supporters tricolores. Le Brésil, fidèle à sa tradition footballistique, remporte le tournoi de football. Au classement des médailles, les États-Unis sont en tête, suivis de la Grande-Bretagne et la Chine. Ces Jeux, pour conclure, dans un climat politique tendu, se révèlent une nouvelle fois très coûteux et des montres qui ne servent en fait à pas grand-chose.
Merci Philippe.
Merci Philippe.
Nous allons écouter maintenant les actualités culturelles présentées par Corinne.
On va écouter Corinne.
Nous allons maintenant écouter les actualités culturelles présentées par Corinne.
Et maintenant, les infos et la page culturelle. À l'Aréole, comme tous les ans, se tiendra sur les quais la foire millénaire de la Toussaint. Foire qui aura lieu les 1, 2 et 3 novembre avec la participation de Radio Entre-deux-Mers qui, comme tous les ans, fera ses émissions en direct de la foire avec des invités et des acteurs locaux. Cette année, Radio Entre-deux-Mers s'est associée à TF1 Téléshopping et l'organisme culinaire international l'OCI pour proposer un grand marché gourmand avec une vingtaine de producteurs venant de toute la France. Vous retrouverez aussi certains animateurs de Pas d'affolement nous voilà de 15h à 16h, le samedi 2 novembre. toujours à l'Aréole, aura lieu du 31 octobre au 10 novembre, la 63e exposition de peinture au prieuré des Bénédictins, exposition organisée par Anime Réolet. À la librairie La Folie en tête, rue André Bénac, le 8 novembre, dans le cadre des 40 ans des éditions Verdier, rencontre avec Didier Dinouic à 18h30. Le 15 novembre à 18h30 dans le cadre du Festival Ritournelle, qui fête ses 20 ans, rencontre lecture avec Patrick Bouvet et Edith Azam. Le 16 novembre à 11h30 dans le cadre des Lettres du Monde, rencontre avec Li Ao Yiyun, écrivain chinois. Et le 23 novembre à 17h, rencontre avec Michel Vinocq, autour de son dernier ouvrage publié chez Gallimard, Charles de Gaulle, un rebelle habité par l'histoire. À Langon, les Carmes. Jeudi 7 novembre, 20h30, Hey Camela, théâtre de José Sanchis, Sinistera, avec la compagnie Les Pieds dans l'eau. Actuellement et jusqu'au 28 novembre, Plumes et Poils. Exposition photographique de Jean-Claude Martin. Vendredi 22 novembre, 20h30, un Pollo Rojo, spectacle burlesque avec Alfonso Baron et Luciano Rosso. Dimanche 24 novembre, 15h, Splendeur des lacs italiens de la Lombardie à Venise, ciné-conférence proposée par Connaissance du Monde en partenariat avec les Amis des Carmes. Mardi 26 novembre, 10h30 à 14h, Sérénade pour pianiste inachevé, présentée par les Jeunesses musicales de France avec la compagnie Danse Musique. Et du 28 novembre au 11 janvier 2020, D'une rive à l'autre, exposition de Sophie Pigeon. À Cadillac au Cinélux, du 1er au 5 novembre, les films à l'affiche sont Hors Normes, Sorry We Missed You, Papicha, Shaun le Mouton et Maléfique.
Et maintenant, nous allons retrouver Madame Darier, pour lui demander tous les soins dentaires sont-ils pris en charge par la Sécurité sociale ? J'ai l'impression que là, je vais passer sur la roulette.
Alors, si on parle de soins, oui. Si on parle de prothèses, non. Voilà, il faut être bien, il y a une distinction, c'est-à-dire vous venez, vous avez un problème, vous avez une carie, je suis obligé de dévitaliser une dent ou quelque chose comme ça, oui, c'est pris en charge entre la Sécurité sociale et généralement votre complémentaire, vous avez zéro frais. Seulement, si vous voulez de la prothèse, après, on tombe dans un matériau plus sophistiqué, on tombe pas dans des soins qui ne sont pas remboursé par la Sécurité sociale en intégralité. Mais ne restez pas avec une idée que tous les soins dentaires sont chers. Venez consulter votre dentiste qui, à ce moment-là, vous fera un devis, vous saurez ce que ça coûtera, vous ferez la demande à la Sécurité sociale.
Comme chez l'ophtalmo.
Mmh. Et vous serez exactement, et à ce moment-là, vous enverrez à votre complémentaire, et vous serez ce qui restera à payer. Hein? Pas d'a priori, on n'est pas si cher que ça.
Merci, c'était très important comme question.
Vous n'êtes pas si cher, mais alors il y a quelque chose qui est peut-être une légende. Le traitement de la douleur est-il systématiquement pris en compte par les dentistes ?
Oui.
Non, mais je suis d'accord. Hein.
Oui, oui, oui. C'est fini, on ne fait plus mal.
Et est-ce que comparé à l'ancien temps, quand on mangeait de l'ail pour anesthésier...
Oui, d'accord. Il y a ça, il y a le clou de girofle, il y a la sorcière.
Et ça marche
Alors, le clou de girofle, ça marche. Je raconte toujours. J'ai un copain
mais l'ail, non.
Non. J'ai un copain qui était en pleine mer, qui m'appelle en me disant « Hélène, j'ai très mal, qu'est-ce que je fais ?» Je lui dis « Tu vas voir un dentiste, je suis en pleine mer. » Bon, je lui dis, tu vas dans la cuisine, essaie de trouver un clou de girofle et mâchouille ton clou de girofle. Ça l'a soulagé, mais ça ne l'a pas soigné.
Ah non, je veux dire soulagé.
Voilà. Et nous, tous nos soins, à l'heure actuelle, nous les faisons sous anesthésie. Et l'anesthésie, ça ne fait pas mal.
Y a-t-il des progrès dans le soin dentaire et les appareillages ?
Oui. Oui, même moi, depuis le début de mon exercice professionnel, maintenant je suis une vieille dentiste, je peux vous dire que ça a beaucoup évolué, et heureusement, et on va vers des choses beaucoup plus fines, beaucoup mieux adaptées. On en est maintenant à la lecture des empreintes par informatique. Donc c'est encore mieux que tout le reste.
Et c'est les plus chers, c'est les dents à vis.
Ah voilà, alors ça y est, on commence. Là, vous allez rentrer dans des choses, c'est pas les plus chers. Ça dépend ce que vous voulez. C'est vrai que si vous voulez de l'esthétique, ça coûtera plus cher que de la non-esthétique. Mais après, tout est dépendant de ce que vous voulez et de ce que vos complémentaires vous remboursent.
Je voudrais juste intervenir. Vous parlez d'esthétique.
Oui.
Est-il vrai qu'il est recommandé, quand on enlève dans les dents jaunes, de mettre une chemise marron ?
Oui. Alors, ça a l'air très drôle, votre histoire. Mais vous savez qu'il y a un dentifrice qui a marché grâce à ça. C'est émail diamant. Pourquoi ? Parce qu'émail diamant, il colore les gencives en rouge. Donc, quand vous vous regardez dans la glace, après vous êtes brossé les dents, ben, vos dents, elles vous paraissent plus blanches. Donc, votre histoire de chemise marron, c'est pas si bête.
Dernière question.
Simplement, dentaire, est-il l'avenir ?
Les implants dentaires, c'est un avenir, mais ils ne sont pas adaptés pour tout le monde. Là aussi, on ne sait pas systématique. Donc, tout va aller pour le mieux. On va pouvoir réussir à faire de mieux en mieux des soins et des prothèses qui seront de mieux en mieux adaptées.
Alors, comment ils sont fabriqués, les appareils dentaires ? À quel matériau, exactement ?
Oh là là !
Enfin, c'est peut-être technique, mais...
Ouais, c'est très technique. Ouais. Alors, on n'en est plus, on est à des matériaux qui ne s'oxydent plus, qui ne transmettent plus l'électricité statique. Il y a des fois, autrefois, vous aviez des appareils, il suffisait de mordre, vous aviez l'impression d'avoir une pile dans la bouche. Ça n'existe plus. Bon, il y a beaucoup de matériaux qui ont évolué. Mais je ne vais pas tout vous raconter parce que je vais vous perdre et ça ne va pas vous intéresser.
Est-ce que c'est compliqué d'adapter un appareil à la mâchoire ?
Non, ce n'est pas compliqué parce que théoriquement, si les empreintes sont bien faites, il n'y a pas besoin d'adaptation.
Non, il n'y a pas de problème puisque électronique.
Voilà. Non, puis c'est surtout que si c'est le travail en amont est bien fait, quand on livre la prothèse, elle doit aller très bien.
Mais merci, Madame Darrier. Je vois que vous n'avez pas une dent contre nous.
Non, non, non. J'en ai pas une, j'en ai beaucoup contre vous.
Ah, ben c'est dommage, parce que nous avons apprécié.
Ben écoutez.
Et peut-être vous nous écouterez le mois prochain pour un nouvel invité.
Non, j'étais très heureux de vous recevoir.
Merci.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Mais moi, quand on m'invite, c'est avec grand plaisir que je viens.
Ah. À jeudi prochain de 14 à 15, vous pourrez nous trouver sur les podcasts de l'internet.
Ok.
Et l'émission est rediffusée tous les jeudis.
D'accord.
Merci beaucoup.
Madame. Au revoir.
Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
Pas d'affolement. Nous voilà. Oh. Ah. Pas d'affolement.
Nous voilà.
Nous voilà.
Voilà.
Pas d'affolement.
Nous voilà.
Pas d'affolement.
Nous voilà.